L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. La femme plus petite, cheveux grisonnants, coupés courts, tailleur noir. La femme dit :
Et voilà, quelle tristesse, quelle tristesse.
L'homme lui demande : Vous le connaissiez ? La femme lui répond :
Non, pas vraiment, mais j'ai connu la mère.
L'homme lui dit : Si vous avez connu la mère, vous avez dû connaître un peu l'homme qu'il était. La femme lui dit :
Non, parce que sa mère, mon amie, ne m'en parlait que très peu. Elle ne savait pas grand-chose de lui, ni le reste de la famille ne le connaissait vraiment.
L'homme lui demande : Il ne fréquentait pas sa famille ? La femme lui répond :
Oui, et les autres ne le fréquentaient pas. Il paraît qu'il était bizarre et secret.
L'homme lui demande : Il voulait cacher sa vie, parce qu'il y avait des choses à cacher. La femme lui répond :
D'après sa mère, il était très renfermé et secret.
L'homme lui demande : Alors, que va-t-il rester de lui si personne ne sait presque rien de lui ? La femme lui répond :
Un être secret. Et puis, est-ce que nous connaissons vraiment les personnes, même celles dont nous croyons tout savoir ? Nous ne pouvons entrer dans l'âme des êtres.
L'homme lui dit : Vous avez tout à fait raison.
Et cela m'attriste. M'attriste beaucoup.
C'était pas dur, les dons. Je sais,
qu'on ne sache rien de lui. On a éclairé dans la pièce. C'est une pièce d'appartement, un séjour meublé d'une façon cossue, mais avec des meubles en bois qui laissent voir le bois brut. Il y a dessus des statues, au mur des tableaux. Dans un coin de la bibliothèque se trouve un beau tableau d'enfant sur un vieux chevalet. Tout est de goût, rien ne traîne. Une femme est entrée dans la pièce. Elle est grande, mince, cheveux châtains, bien peignés, la tête triste et osseuse. Elle porte une robe élégante noire, toute simple. Elle dit à la femme du cimetière qui l'a suivie et qui est intriguée.
Je vous ai fait venir, c'est parce que je me sentais gênée de venir ici. Voir l'intimité de mon Gérard, cela me gêne parce qu'il était tellement secret.
La femme lui demande en regardant la pièce.
Vous n'êtes jamais venu ici ?
La mère lui répond.
Surtout pas. Je n'aurais jamais osé aller chez lui comme ça. J'aurais eu trop peur de le gêner. Et puis, il ne m'a jamais invité.
La femme lui demande.
Et les autres membres de la famille? Non plus. Personne ne venait le voir. C'était comme ça.
La femme s'approche de la bibliothèque et regarde les livres en disant
« Il devait avoir beaucoup aimé les livres et devait être assez instruit vu ce qu'il disait. Il a dû faire de très bonnes études. »
La mère soupire et lui dit
« Pensez-vous, rien, un feignant, un cancre. Il n'aimait pas l'école. »
La femme lui dit
« Pourtant, ce qu'il disait, »
La mère lui dit
« Il devait s'ennuyer. » Bien sûr, seul comme il était. Alors il devait lire.
La femme lui dit
«
pas n'importe quel livre. »
La mère lui dit, « Moi, je ne lis pas. Je n'ai pas le temps. Et puis, je n'y connais rien. »
La femme lui demande,
« Il a passé son baccalauréat ?»
La mère lui répond,
« Même pas. Rien. Un feignant. »
La femme reste sceptique et lui demande,
« Qu'avait-il comme emploi ?»
La mère lui répond,
« Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas au juste. Peut-être manœuvre dans une entreprise. »
La femme reste encore plus sceptique.
La femme regarde les tableaux et statues.
Elle lui dit,
il avait du goût.
La mère lui dit,
vous croyez, du goût, lui? Il ne savait même pas s'habiller lorsqu'il était chez nous.
La femme regarde une statue et dit,
ce ne sont pas des copies.
Elle regarde le tableau de l'enfant et lui dit,
une œuvre magnifique.
La mère hausse ses épaules et lui dit,
il a dû acheter ça chez un brocanteur.
La femme regarde bien le tableau et lui dit,
d'après ce sigle, il a été exposé au musée Saint-Pierre.
La mère hausse ses épaules et lui dit,
oui, peut-être.
La femme regarde les autres tableaux et statues. La femme lui dit,
celle-ci était une œuvre originale, et celle-ci aussi.
La mère ne dit rien, puis elle lui dit,
chez nous, il ne s'occupait de rien, et rien ne l'intéressait. Nous ne savions même pas ce qu'il pensait et ce qu'il aimait.
La femme lui demande,
vous ne savez pas qui il était vraiment?
La mère lui dit,
mon fils.
La femme lui demande,
que savez-vous de lui?
La mère lui répond,
ce que je vous ai dit, rien de plus. Parce qu'il n'y a rien de plus à en dire. Une personne qui était insignifiante.
La femme lui dit,
il ne restera de lui que ce que vous venez de dire.
La mère lui dit,
oui, et c'est la vérité.
La femme lui demande,
et tout ça?
La mère ne lui dit rien.
Ouvre la marquanterie. La femme lui dit,
il avait une belle garde-robe.
La mère lui dit,
très dépensier. Chez lui, enfin chez nous, je veux dire, il n'avait qu'un costume, deux pantalons et trois pelots.
La femme lui demande,
il n'en demandait pas plus.
La mère lui dit,
il ne manquerait plus que ça. Je l'aurais mis à sa place.
La mère regarde une paire de chaussures et lui dit,
elles sont usées. Il paraît qu'il aimait beaucoup marcher dans les bois.
La femme lui demande,
qu'allez-vous faire de toutes ces affaires?
La mère lui répond,
que voulez-vous qu'on fasse de toutes ces vieilleries? Je vais faire venir Emmaüs.
La femme lui demande,
même les œuvres d'art?
La mère lui demande,
quelle œuvre?
La mère a ouvert un tiroir avec dedans des lettres et des cartes postales. La femme lui dit,
pour une personne qui était solitaire, elle recevait beaucoup de courriers.
La mère lui dit,
des cartes de vacances, des choses comme ça.
La femme voit qu'il y a des lettres de plusieurs feuilles. La femme lui dit en montrant les lettres pleines.
Non, des lettres.
La mère lui dit,
nous mettrons tout ça à la poubelle.
Oui, à la poubelle.
Se promène sur les quais avec l'homme du cimetière. Tout en marchant, elle lui dit,
de la vie de cet homme, il ne restera rien et personne ne saura qui il a été.
Elle a tout donné à Emmaüs, même des œuvres d'art, des choses. Elle a brûlé son courrier, jeté ses vêtements. Aucune trace. Et le peu de choses que l'on sait de lui, c'est pour ainsi dire rien. Sa famille ne l'a pas connu et ne veut pas connaître. De sa vie, tout a été effacé, comme s'il n'avait pas vécu.
L'homme lui dit, est-ce qu'il recevait des lettres d'autres personnes que de la famille? Il devait le connaître. Enfin, les autres personnes devaient le connaître.
La femme lui dit,
vous avez vu, à l'enterrement, il n'y avait personne. Moi, j'y suis allée parce que je connaissais un peu la mère. Et vous, parce que vous êtes son voisin de palier à elle.
L'homme lui dit,
mais ils vont se faire connaître et parler de lui. Ils ne savent peut-être pas qu'il est mort.
La femme lui dit,
moi je crois plutôt qu'ils ont appris sa mort, mais pour eux, il n'a plus existé une fois qu'il était mort.
L'homme lui dit, pauvre jeune homme.
Elle lui dit, je crois que pour mon tour, ce sera la même chose. Les gens sont égoïstes.
L'homme lui dit,
C'est terrible.
Elle lui dit,
oui.
L'homme lui dit,
personne ne saura qui il a été et ce qu'il a aimé. Quelle tristesse.
Elle lui dit,
en tout cas, il avait du goût et semblait, malgré ce que m'a dit sa mère, assez cultivé.
L'homme lui dit,
deux souvenirs contradictoires. Et c'est pour nous tous pareil. Et puis c'est la mère qui fera son portrait officiel, même si c'est plus superficiel. Le nôtre ne compte pas.
La femme lui dit,
et personne ne pourra la contredire, parce qu'elle a détruit toutes les marques de sa vie.
L'homme lui demande,
vous avez pu prendre un objet, un souvenir?
Elle lui répond,
je lui ai demandé, en la payant, le délicieux tableau qui pour moi a quelque chose de fascinant. Elle a refusé et m'a dit que ce n'était qu'une croûte bonne pour la brocante. Moi, je suis sûr que c'est une œuvre d'un grand peintre. Et comme certaines statues d'ailleurs.
L'homme lui demande,
elle n'y connaît rien.
Elle lui dit, je crois plutôt que son esprit est obtus et ne va rien savoir. Elle veut que son fils soit un imbécile idiot qui a raté sa vie. Et pour ne pas être contredite, elle a effacé les preuves qui pouvaient la contredire.
Il lui dit,
c'est terrible ce que vous dites là.
Elle lui dit, oui, mais je crois que c'est la vérité.
Il lui demande,
et pourquoi?
Elle lui répond,
elle ne l'aimait pas. Ou il l'a déçu d'une certaine manière.
Mais laquelle?
Salon moderne avec des fauteuils en cuir noir. Des jeunes gens sont aussi dans des fauteuils. L'un est grand, mince, les cheveux blonds, le visage beau, il est habillé d'un costume bleu. L'autre est bien en chair, cheveux châtains, le visage jovial, habillé d'un costume gris. Le jeune homme blond dit,
j'ai appris par hasard, en lisant dans un vieux journal, que Gérard était décédé.
L'autre fait, mon Dieu,
et moi qui ne l'ai pas su,
quand est-ce qu'il est mort?
Le jeune homme lui dit,
ça remonte à 2 mois.
L'autre lui demande,
je le lui dis. Parce que personne ne le savait. Mais tu demandes, et la famille? Je lui dis, personne ne connaissait sa famille, qui, d'après lui, était une famille très bien. Enfin, pour le peu qu'il nous en a dit. Soupire et dit, nous n'aurons plus de longues discussions chez lui. Il était le plus cultivé de nous. Et ces choses, ces statues, ces tableaux, le jeune homme lui dit, je crois qu'il aurait souhaité que l'on y donnât à un musée. L'autre lui demande, même le tableau de l'enfant? Le jeune homme lui dit, ah, celui-là, il en était amoureux. Une belle œuvre, mais qui, je crois, cache un mystère. L'autre lui demande, quel mystère? Il lui répond, l'enfant qui a été peint a disparu, et personne ne sait ce qu'il est devenu. Gérard avait l'impression que cela cachait quelque chose et il avait l'intention d'écrire l'histoire de l'enfant. Enfin, de l'enfant qui est sur le tableau. Mais tu dis, j'aurais aimé la lire. Il était tellement fasciné par la beauté de ce tableau. Le jeune homme lui dit, et on était même un peu trop amoureux et d'une façon troublante. Je lui ai demandé pourquoi il était si fasciné par ce tableau et m'a répondu qu'il aurait aimé être comme cet enfant, beau et qui semblait être heureux. Moi, tu demandes, il n'avait pas été heureux dans sa famille, dans sa jeunesse? Le jeune homme lui dit, je ne sais pas, il ne disait rien de sa jeunesse ni de sa famille. L'autre lui dit, nous allons peut-être apprendre qu'une galerie va exposer le tableau. Oui, peut-être. Siècle, qui doit avoir à peu près une douzaine d'années. Il est habillé en mousse, comme ça se faisait dans le temps. Il a un regard très beau et sa tête est légèrement penchée sur la gauche et l'on voit une lumière dans les yeux. Pendant que l'on regarde le tableau de cette façon, avec la lampe, une voix d'homme dit, l'antiquaire, un de mes amis, est allé à Emmaüs et a vu le tableau et l'a trouvé très beau et de qualité. Il a aussi vu le sigle comme quoi il a été exposé au palais Saint-Pierre à Lyon. L'antiquaire est allé le voir et il l'a acheté. Il me l'a montré et je l'ai pris. Je le garde pour moi et ne le montrerai qu'à un petit comité. Il y a quelque chose dans ce tableau de troublant et de fascinant. parfum est délicieux et envoûtant. Je ne sais pas qui l'a eu avant moi, mais la personne qui l'a eu avait du goût et devait être, comme moi, envoûtée par cet enfant.
Délabrée et sale. Le chômage, l'immigration, les sans-domicile fixe et les étudiants, tout ceci a fait que la ville est devenue une ville sinistre. Et puis le maire, les maires successifs depuis les années 1980 l'ont laissé se délabrer. Laissé à l'abandon. Dans le quartier du premier arrondissement, en bas des pentes qui mènent à la Croix-Rousse, au bout de la rue Bouteille, à côté de l'hôtel Saint-Vincent, se trouve un passage qui mène à une cour lugubre où se trouvent des immeubles plus ou moins délabrés.
Le passage est rempli de détritus et la chaussée pavée et défoncée. Des voitures en mauvais état sont garées n'importe comment. Les enfants en guenille courent dans tous les sens. Des gens crient, se disputent de fenêtre à fenêtre. Aux fenêtres des immeubles sont pendus des tapis et du linge. Les personnes qui habitent ces immeubles sont des familles de miséreux issus de milieux étrangers. Ça crie, ça rit, ils sont sales. Dans un de ces immeubles de 4 étages, avec en plus au dernier des fenêtres mansardées, celui qui se trouve à droite en entrant dans l'impasse. L'allée est étroite, sale, plein de détritus, sur le sol et les escaliers. Ça sent l'odeur d'humidité et d'urine. Les murs n'ont plus de couleur. Le sol, c'est de la pierre usée. Les boîtes aux lettres sont dépareillées et cassées. Les escaliers étroits sont usés. Ils ont une rampe en métal qui a été peinte en noir. Nous allons au dernier étage où se trouve le grenier qui a été aménagé de 4 petites chambres mansardées. Un couloir étroit mène à ces 4 petites chambres et en face de ces chambres, il y a les WC communs qui sont à la turque et sale. Nous allons entrer dans la deuxième chambre. C'est une petite pièce, toute petite, lugubre et sombre. Il y a une petite fenêtre mansardée qui n'a jamais été nettoyée et qui n'a pas de rideau. Les murs, la tapisserie, est tellement sombre qu'on n'arrive pas à savoir quelle était sa couleur et le sol, c'est du lino, imitation bois taché. Dans un coin du mur se trouve un petit lavabo où il y a sur le rebord tout ce qu'il faut pour se raser. Les rares meubles sont disparates et en mauvais état. Il y a une petite armoire à une porte dont la porte n'est pas fermée car elle est trop remplie. Une petite table où se trouve un petit réchaud électrique. Une autre table plus grande où se trouve les restes de repas, une chaise en bois avec le dessus du linge en désordre et un lit en fer. Se trouve allongé par-dessus les draps froissés un jeune homme de 22 ans. Il est réveillé, habillé d'un pantalon noir et d'un t-shirt blanc. Il est beau, il semble grand, mince, cheveux châtain clair, le visage doux, avec de grands yeux marrons, des cils longs, les sourcils bien faits, la bouche bien dessinée, comme ses oreilles, la peau blanche, des petites mains et petits pieds. Il se dégage de lui une grande distinction. Le jeune homme s'appelle Xavier Darmon. Il est mélancolique et a peur pour son avenir, car cela fait plusieurs mois qu'il est au chômage et il n'a presque plus d'argent. Cela fait un an qu'il est venu à Lyon pour chercher du travail. Il vient d'un petit village du Beaujolais qui s'appelle Saint-Véran. Là-bas, il arriva à gagner sa vie par de menus travaux, car il n'a aucun diplôme et est orphelin. Malheureusement, il s'aperçoit qu'à Lyon, c'est tout aussi difficile que dans son petit village pour trouver du travail. Il déprime. Il déprime sérieusement et ne sait que faire. Il se demande s'il ne ferait pas bien de retourner dans son petit village. Il a très faim et se nourrit que d'un morceau de pain et de sucre une fois par jour. Il fait attention à ses vêtements parce qu'il n'a pas les moyens d'en acheter d'autres. Il va tous les jours à la NPE de la rue de la République pour voir les annonces. Il a peur de se trouver à la rue. Pour se détendre, il sort un peu dans son quartier, mais cela le fatigue, car ça lui donne le vertige, parce qu'il ne mange pas assez. Oui, il ne mange pas assez. Il fait particulièrement chaud et étouffant dans sa pièce. Il décide de sortir. Les rues sont désertes. Pas de bruit, seul le bruit de la circulation au loin. Sur les quais de Saône, il rencontre un clochard qui est en train de boire une bouteille de vin. Il est assis sur un banc. C'est un vieux clochard dégueulasse qui a des cheveux et barbe blanche en broussaille, habillé de hardes, déchiré et sale. Il a un regard étrange. En passant devant le clochard lui dit
« Viens t'asseoir un moment près de moi pour discuter un peu. »
Xavier s'assoit avec le thé du clochard. Le clochard lui demande
« Qui es-tu ?»
Xavier lui répond « Je m'appelle Xavier. J'habite dans le quartier et je suis au chômage. Je viens du Beaujolais. Je suis venu à Lyon pour trouver du travail et je m'aperçois que ce n'est pas facile d'en trouver. » Et le clochard lui dit
« Ouais, la vie est difficile pour tout le monde. Tu aurais peut-être dû mieux faire de rester dans ton petit village. »
Xavier lui dit « Là-bas aussi, c'est difficile. Il n'y a rien à part quelques paysans et vignerons qui sont prêts de leur argent. Je suis orphelin et je n'ai pas d'amis. Personne pour m'aider. » Le clochard lui dit en lui tendant sa bouteille de vin.
« Tiens, bois un coup. »
Xavier, qui n'a pas l'habitude de boire, mais qui n'ose pas refuser pour ne pas froisser le clochard, boit une gorgée de vin bon marché. Cela le dégoûte et en même temps lui donne chaud. Le clochard lui dit
« Des choses étranges vont se passer cette nuit. Et qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que le temps? Le présent peut se mélanger au passé et l'avenir au présent. Qui est qui? Il suffit de peu de choses pour changer d'identité et entrer dans la vie d'un autre.
Le clochard, après avoir bu, lui tend la bouteille pour qu'il puisse boire. Comme Xavier n'a pas l'habitude de boire de l'alcool, cela l'enivre rapidement. Et je sens tout drôle et voix trouble. Le clochard lui demande
« Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?»
Xavier lui dit « Je ne sais pas. Ce que vous dites ressemble à de la science-fiction. Mais je ne sais pas comment le temps pourrait se mélanger, que le passé puisse se mélanger au présent. Pour ce qui est de l'identité, changer d'identité, cela est possible en changeant de nom. Moi, j'aimerais pouvoir changer de vie et avoir une vie plus simple. Ah oui, alors. » Le clochard lui dit
« Quelquefois, changer de vie, c'est dangereux. »
Après avoir bu, le clochard le fait boire encore une fois. L'alcool l'enivre rapidement et puis il a le ventre vide. Le pauvre Xavier se sent tout drôle et voit trouble. Le clochard lui dit
« Cette nuit, il va sûrement se passer quelque chose, car les étoiles ne sont pas en place. »
Xavier lui dit « Je ne connais rien aux étoiles et je ne vois pas comment elles pourraient jouer sur notre vie. » Le clochard lui dit
« Tout vient d'en haut. La destinée des hommes se trouve dans l'univers. Alors si les étoiles ne sont pas en place, cela veut dire qu'il va se passer quelque chose qui va transformer notre vie. »
Xavier lui demande « Ça va transformer quoi ?»
Le char lui répond « Tout ce qui règle notre vie, le temps, ce que nous sommes. »
Xavier se sent fatigué. Le vin et la discussion. Il décide de rentrer chez lui. Il dit au revoir au clochard et s'en va. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique Le scénario original de Jean-Pierre Jugnet, de Sainte-Croix. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.